Pour vraiment vous dire à l'Assemblée, de manière assez générale dans notre Église, depuis quasiment le début, l'Assemblée a toujours été une Assemblée généreuse, fidèle, et puis je sais que c'est pas trop évident parce qu'on n'est pas une Assemblée, en tout cas c'est pas dans notre culture, de toujours vous dire ce qu'on fait pour essayer de mousser ça sans arrêt, t'sais. En tout cas, ce n'est pas ma personnalité, pardonnez-moi. Mais le Seigneur nous donne des saisons pour semer. On a des temps dans nos vies où le Seigneur nous regarde et comme l'Épître aux Hébreux nous rappelle, il reste finalement à l'œuvre de Jésus-Christ juste deux choses à faire. Répondre par l'action de grâce, la louange, la reconnaissance. Et deuxièmement, le fruit que c'est souhaité de produire dans nos vies, c'est la libéralité. Et puisque l'Assemblée, comme je vous dis de manière générale ici, en fonction des moyens que chacun peut posséder, est très généreuse, on pourrait dire, l'apôtre Paul pourrait même le dire, c'est pas le don que je cherche, mais le fruit. Et puis l'Assemblée a vraiment un fruit. Un fruit que, dans le sens qui a permis de pouvoir se rendre jusqu'à ici aujourd'hui. Deuxièmement, un fruit qui fait que beaucoup d'enfants et de jeunes aujourd'hui ont pu être soignés, nourris, éduqués, trouver du travail, aller de l'avant, par exemple comme en Haïti, où ça continue encore, ou en Afrique, encore une fois, où la même chose est en train de se produire, où on soulage. On n'a pas la prétention de régler le problème dans le monde. Pour nous, le problème, il est réglé et il va se rendre manifestement réglé au retour de Jésus-Christ. Entre-temps, Jésus nous dit, « Vous aurez toujours les pauvres avec vous. » Donc, c'est important de continuer un petit peu tout le temps parce qu'il nous est dit qu'au temps convenable, on va récolter. L'apôtre Paul rappelle que certains vont semer, d'autres vont arroser. C'est Dieu qui a fait croître. Et il a fait croître des œuvres absolument incroyables. Je me rappelle quand, la première fois qu'on avait eu cette impression où le Seigneur... D'abord, quand on m'a donné l'Évangile, quand on m'a annoncé l'Évangile, j'ai eu le privilège d'être... au fond, amené au Seigneur Jésus-Christ par des gens qui croyaient qu'il fallait aller l'annoncer, l'Évangile. C'est un petit village qui avait connu eux-mêmes un réveil. Puis dans ce réveil-là, l'effet, le fruit que ça produit dans leur vie, c'était « il faut aller le dire aux autres ». Donc, ce n'était plus une église ou un village qui vivait depuis 2, 3, 4, 5 générations de l'Évangile, mais c'était des gens que le Seigneur avait trouvés qui errait dans les rues, qui n'avait plus de destinée, qui n'avait plus de raison d'être, et qui, au fond, disait peut-être même à la société de l'époque, puis d'aujourd'hui, c'est bien beau de s'acheter des maisons, c'est bien beau avoir des voitures, c'est bien beau avoir de l'éducation, c'est bien beau avoir tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas la vie, ça sert à quoi? On s'en va tous mourir. Et si Dieu existe, on est vraiment dans le trouble. Donc, ces gens-là, finalement, quand le Seigneur les a visités, les a saisis, c'était des gens ordinaires, sans éducation quelconque, là, dans le sens juste vraiment des gens ordinaires. Mais il y avait un fardeau. Il faut que les autres le sachent. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Et puis, donc, quand c'était temps pour moi de revenir ici, chez nous, puis c'est, je vous le dis, c'est vraiment pas dans ma personnalité, là. J'ai vraiment hâte, moi, que le Seigneur vienne me chercher, parce que je me dis, là, enfin, je vais pouvoir me reposer, puis... J'aurais pu à confronter, j'aurais pu à... Je veux faire un jardin. Moi, quand je vais arriver devant le Seigneur, j'espère qu'il y a une place qu'on peut faire des jardins. Puis de planter, de m'asseoir avec une petite chaise, puis un parasol, puis regarder voir si ça pousse. Ça va être fantastique. Mais aujourd'hui, je vais acheter mes radis à l'épicerie. Il y en a d'autres qui les font pousser. Et puis, finalement, on continue à faire sortir le message. Donc, ça a toujours été notre fardeau depuis le début. Comment on sort le message? Puis, je veux vraiment vous remercier que la majorité d'entre vous, vous avez été fidèles à maintenir cette culture-là, de sortir le message, de s'organiser pour que ça sorte. Puis, le Seigneur a ouvert des portes, mais incroyables. Il a mis le fardeau dans nos vies. Puis, regardez bien comment Dieu fonctionne. C'est vraiment béni. Ce que Dieu demande, il le donne. Parce que comme on a chanté, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? La création tout entière dépend de toi. On reçoit de toi pour être. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Alors, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, et que vous répondez simplement par reconnaissance en disant « OK, je ne sais pas comment, mais OK », eh bien, le Seigneur va pourvoir, puis il va faire des choses absolument inouïes. Mon fardeau, c'était de sortir le message, fait on a fait deux fois toutes les portes de Cartierville. Porter un évangile de Jean, cogner aux portes, puis tu sais, moi, j'haïs ça. Je ne peux même pas vous imaginer à quel point j'haïssais ça. Mais si tu veux faire, il faut le faire. T'sais. Après ça, on faisait l'évangélisation quasiment tous les jours. On évangélisait, rappelle, dans le temps du ministère de la rue, avec les enfants. On a annoncé l'évangile dans tout Cartierville jusqu'à... On débordait tout le temps qu'on était fini avec Côte-des-Neiges. On louait des autobus, on louait des écoles. On a même loué un cinéma. Ça, les enfants avaient vraiment trippé, c'était incroyable, t'sais. Et puis, l'Évangile est annoncé au point que jusqu'à aujourd'hui, que c'est rendu des adultes maintenant, qui sont dispersés un peu partout. Je m'appelle qu'André de Courville, je ne sais pas s'il est là le matin, mais André me rappelait qu'il y a des enfants qui sont rendus des adultes maintenant, qui gardent contact avec lui et qui l'appellent encore Capitaine André. Parce que c'était le nom qu'on donnait au chef de route, là, tu sais. Puis il y avait eu même, pour amuser les enfants, il y avait vraiment un temps fantastique, il y avait eu une fois un hijack d'autobus par Batman, Hulk, je ne sais pas trop qui. Et puis la police est arrivée parce que les gens ont paniqué en se demandant ce qui se passait. Puis la police nous a dit après, « Écoutez les gars, quand vous avez fait une chose comme ça, appelez-nous avant. » Mais même eux contribuaient puis étaient contents en disant que pendant toutes ces années qu'on le faisait, qu'on louait l'école, qu'on louait les autobus, je me rappelle, il y avait plein de chauffeurs, François, entre autres, je ne sais pas si il y a François Allard était aussi un des chauffeurs à l'époque, et puis il y en avait plein. Bien, tout le monde avait été chercher les permis à leurs frais, on mettait toutes les fins de semaine là-dessus sans arrêt. L'Évangile a sorti pendant 10-15 ans, toutes les fins de semaine, toute l'année. Puis je vois encore l'image d'une petite fille avec un imperméable, et puis il pleut, puis elle est dehors, puis elle attend l'autobus. Elle attend l'autobus qui s'en vient la chercher pour aller à l'école du dimanche. Puis tu peux pas te décevoir ces enfants-là, c'était trop. T'sais. Fait que toutes ces choses-là sont faites, puis on a semé, puis on continue. Je me rappelle une fois, je priais souvent le Seigneur en disant, écoute, comment on peut trouver un autre moyen? Moi, me faire aborder directement dans la rue ou à la porte, c'est pas la meilleure méthode pour moi, là, tu sais. Mais pour le genre de personne comme moi, moi, j'aime mieux entendre quand quelqu'un parle, m'a l'écouter, mais je veux pas qu'il me regarde. Parce que ça me stresse tout le temps, tu sais. Je sais pas, c'est comme ça, tu sais. Quand t'es mal fait, je te dis, tu sais. Fait que je dis, moi, j'aime ça entendre quelqu'un parler, soit à la TV ou à la radio. Puis qui parle de son affaire, mais qui sait pas que je suis en train de l'écouter. Puis, m'a prendre le temps de réfléchir si ça a du bon sens ou non. T'sais, je veux pas de pression. Je veux comprendre ce que m'a croire. Puis, je me rappelle, c'était en été. Puis, à un moment donné, c'était mon anniversaire, comme à chaque été. Et puis, le gars, le directeur de la station Champlain, à l'époque, c'était David Benton, il vient. C'était la deuxième année. Une première année avait été faite par cette fameuse radio chrétienne qui commençait dans les années 80 au tout début. 87. C'est en 87? La station donc, commence en 86, on va dire? En 87 qui est venu? Okay. Et puis, il se fait qu'il arrive chez nous, puis tu sais, il se présente avec les autres amis parce qu'ils m'ont fait un surprise que j'aime pas. Faites-moi jamais de surprise. Ça marche. Et puis... il me dit, écoute, tes amis m'ont dit que tu fais partie de tel ministère. Ton pasteur, il est là les jours de la semaine à 10h, Greater Grace, ou Telephone Time à l'époque, quelque chose du genre. Il faisait une méditation, puis il répondait en direct aux gens. T'sais. Il dit, écoute, j'aimerais ça que tu puisses faire ça en français. Là, je suis là, attends, la radio, j'ai jamais fait de radio de ma vie, moi, je fais là. Et puis, je me rappelle que peut-être un mois auparavant, quand j'étais à Lennox, c'était là qu'il y avait le quartier général un peu à l'époque. Là. Pasteur Stevens m'avait dit, on a commencé finalement chez vous, à Montréal, à cette station, l'émission, tu sais, pense. Puis il me dit, tu vas faire ça aussi en français? Puis là, je me rappelle ce que j'avais répondu. J'ai dit, well, yeah, great. Well, I'll pray about it. Ça, c'est une manière de dire non quand tu es chrétien. T'sais. Et puis, ben, le Seigneur, dans sa grâce, il a fait finalement qu'on s'est retrouvés là. Et ainsi de suite. Dieu ouvre les portes sans arrêt. Ce qu'il commande, il donne. Il nous demande simplement d'avoir un cœur qui est prête à dire, OK, par reconnaissance, de toute façon, ça ne peut pas gâcher ma vie, elle était gâchée avant que tu la sauves. Qu'est-ce que je peux perdre? Je ne peux rien perdre. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie pour toujours. Tu m'as donné le pardon. Tu m'as donné finalement de pouvoir participer à ton projet de la création, de la nouvelle création. Même si on m'enlève tout, de toute façon, on va tout perdre un jour. Qu'est-ce que tu veux qu'on m'enlève? On ne peut pas m'enlever ce que tu m'as donné. On ne peut pas nous enlever ce que Christ nous a donné. Craignez pas ceux qui tuent le corps, la parole dit. C'est le Seigneur lui-même qui dit. S'il y en a un qui est à craindre, c'est celui qui peut perdre les deux, ton corps et ton âme. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu de ce qu'on a continué à grandir là-dessus. Et la sève qui nous a permis de le faire, ça a toujours été la formation, l'étude de la parole. Le peu qu'on comprenait, puis il y a plein de choses à comprendre, puis c'est pas vrai que c'est si facile que ça à comprendre la parole de Dieu. Si c'était si facile, il ne nous aurait pas donné des ministères, des hommes consacrés, mis à part, comme des docteurs, des évangélistes, des apôtres avant eux, les prophètes, pour nous l'enseigner. Ça serait si facile. Mais c'est comme toute chose. Ce qui est essentiel se saisit rapidement. Pour être sauvé, un enfant peut être sauvé. Mais pour croître, pour développer, pour aller de l'avant, pour saisir ce trésor-là, ça demande de l'effort. Ça demande la supplication que le Seigneur ouvre notre intelligence, d'être libéré des mensonges de ce monde, des courants de pensée dans lesquels on est né, pour pouvoir être affranchi par la vérité que le Fils nous donne, afin d'être libéré pour marcher dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et un jour, on va voir et récolter ce qui, par pure grâce, encore une fois, c'est par pure grâce, la grâce de Dieu est absolument incroyable, mais par pure grâce, ceux qui auront persévéré, ceux qui auront été fidèles, Paul y attendait une couronne. Paul y attendait vraiment quelque chose. L'Épître aux Hébreux, l'auteur dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous manifestez et que vous continuez à manifester à son nom en rendant ce service aux saints. » L'apôtre Paul dit « Pendant qu'on en a l'occasion, pratiquez le bien envers tous, principalement envers les frères. » Et le Seigneur, un jour, va juger aussi ce qu'on a fait de sa grâce. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il va juger ses églises. À certaines, il va dire « Persévère, c'est super, tout va bien. » Smyrne, Philadelphie, ils sont pauvres, ils ont de la difficulté, ils sont persécutés, mais le Seigneur les encourage en disant « Hey, laisse-toi pas décourager par les apparences. » À d'autres églises qui se pensent prospères, qui sont blasées, puis qui, la Odyssée ou d'autres, le Seigneur dit « Écoute, tu es sur une bien mauvaise voie. » Donc, il doit avoir sûrement un effet à ce qu'on est en train de vivre présentement. S'il n'y a pas d'effet, si que vous marchiez ou non avec le Seigneur, que vous recherchiez sa volonté ou non, et qu'au nom d'une mauvaise compréhension de la grâce, il n'y a plus rien à faire dans le sens que, ben écoute, je ne peux rien ajouter à sa justice. Et c'est vrai, on ne peut rien ajouter à sa justice. Si par contre, toute cette œuvre n'amène pas un fruit, j'ai l'impression qu'on peut passer à côté. Sinon, il n'y aurait pas tant d'instructions dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'instruire des gens qui n'ont rien à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, quelqu'un là, qui ne peut rien faire, puis qui ne doit rien faire, puis qui ne va rien faire, ben écoute, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Par contre, si tu libères quelqu'un pour l'amener avec toi dans un projet, dans l'œuvre que Dieu fait, imaginez, on est libéré du péché. On est libéré de ce monde, on est libéré de l'ignorance que produit le péché dans notre vie pour s'attacher à des idoles muets, sans vie, inutiles. On est libéré de tout ça pour découvrir la volonté de Dieu pour marcher avec lui dans des œuvres qu'il a préparées. Des œuvres qu'il a préparées. Aucun salut par les œuvres, totalement impossible. Mais sauvé pour quelque chose d'incroyable. On est sauvé pour, pas rien qu'aller, entre guillemets, au ciel. Sinon, écoutez, prions qu'on meure tout de suite, on perd du temps. Là. Je veux dire, si c'est le ciel qui est le but de tout ça, bien, écoute, on se met de mourir tout de suite. On en laisse 2-3 qui continuent à dire aux autres, ou même mieux, on met ça sur Internet, puis on le fait tourner en boucle, tu sais, puis pendant ce temps-là, on prend du Kool-Aid, puis on s'en va, tu comprends? Mais c'est précieux ce qu'on vit en ce moment. C'est précieux. Paul il pleure, il est blessé, il est attristé quand il voit qu'un de ses ouvriers, un des gars avec qui il travaillait, qui marchait avec lui dans le plan de Dieu, l'abandonne pour l'amour de ce siècle comme démence. Il est brisé. Paul est brisé. Il n'est pas en train de dire, ah ben, il fait bien, de toute façon, ça ne dérange pas. Que tu marches avec Dieu ou tu ne marches pas avec Dieu, ce n'est pas grave. Non, il est en train de dire, il ne réalise pas ce qu'il est en train de perdre pour l'amour de ce siècle. Donc, d'où l'importance de vraiment s'encourager, de s'exciter, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, de s'exciter aux œuvres bonnes. Rappelez-vous ce que Paul dit. Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Sinon, l'œuvre, ben, ce n'est plus une œuvre. Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Mais est-ce que vous êtes appelés à des œuvres? Alors, quel est le résultat d'une œuvre? Une récompense, un salaire, il y a un effet. Il dit, celui-là qui travaille, le laboureur, tu sais, Paul, il prend des images pour essayer d'encourager Timothée, qui est un ouvrier dans l'œuvre, puis le gars, il a l'air d'avoir un tempérament un peu comme le mien. Il n'aime pas le trouble, il fait des ulcères d'estomac, et puis, tu sais, je veux dire, il n'aime pas la chicane. Fait que Paul est en train de l'encourager en lui rappelant de pas se faire avoir par l'esprit de ce monde, en d'autres mots. Il dit, rappelle-toi, regarde un soldat, là, il va pas s'encombrer des affaires de cette vie. Parce qu'il est engagé pour quelque chose de plus grand. S'il n'y a pas de guerre, pas de problème, reste dans ta petite maison, ça ne doit pas être des grosses maisons, mais ça doit être des petites maisons intéressantes. Et puis là, plante tes fleurs, puis attends qu'on t'appelle, parce que oublie pas, dès que tu reçois un ordre, tu laisses tout, on s'en va. Ça, c'est le but. Il dit, celui qui travaille une terre, le laboureur, son but, là, c'est pas de labourer à terre. Son but, c'est même pas de semer. Tout son travail, il fait dans un but. Parce que, Rosaire, t'en avais une terre. Il est où, Rosaire? Il est là quelque part. T'avais une terre. Sébastien aussi en a eu, tu sais. Puis, au printemps, tu dépierrais. Les pierres poussent plus vite que le maïs, on dirait. Hein? Tu dépierrais régulièrement, tu nourris cette terre-là, t'as la bourse. Bien, tu travailles. Fait que c'était ça ton trip? Récolter. C'est récolter qui était le but d'aller labourer, de dépierrer, d'ensemencer, de voir, quasiment de prier, Seigneur, que la pluie arrive, puis je veux dire, ton but, là, t'attends la récolte. Perdez pas de vue que nous aussi, on attend une récolte avec lui. On veut participer à son œuvre. Priez pour ceux qui se font avoir et qui sont en train de tout mettre leur temps, leur énergie dans l'amour de ce monde, dans l'amour du siècle présent qui passe. Ils se font avoir. Il y en a qui sont prêts à abandonner leur appel parce qu'ils veulent se marier. Avec Normand, cette semaine, on soupait ensemble, puis on se rappelait de certains de nos amis au travail. Ils ont tous entendu l'Évangile. Normand s'est tourné. D'autres s'ont tournés aussi vers le Seigneur. Puis il nous parlait de 2-3 gars, un entre autres, qui ne voulait absolument pas. Il était touché, le gars. Il voulait. Puis on avait même. Puis Normand me rappelait l'histoire, je ne me rappelais plus, là. Mais on avait prié pour lui parce qu'il était terrifié du dentiste. Je ne sais pas si Normand est là, s'il s'en rappelle. Hein, c'est ça, hein? Il était terrifié du dentiste. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a rien senti, il n'a pas eu peur. Il était dans une paix qu'il n'avait jamais connue, le gars. Il n'en revenait pas, il revient après, tu sais, il nous en parlait. Il n'a pas voulu donner sa vie, recevoir Christ, marcher avec lui. Savez-vous quoi? Il ne voulait pas perdre sa blonde. Il ne voulait pas perdre sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a perdu, sa femme. Il l'a perdu quand même. Soyez pas niaiseux. Mettez jamais votre confiance dans les gens. Calvince! Combien de fois il faut se le dire? On ne veut pas que mon mari me chicane, on ne veut pas que ma femme s'en aille, mes enfants, ils m'ont... Je retourne au message à la place. Non, mais c'est parce qu'on se fait avoir comme des épins, puis après ça, tu dis, Calvin, ça valait-tu à peine, mon épin? Ça valait-tu à peine? Là, t'en veux à tout le monde après, mais ils tous trahis. Mais non, c'est toi le cave. C'est toi le cave, un cave profond, une grosse cave très profonde et vide. Faire confiance aux gens, un têteux, une têteuse. Non, c'est ça qu'on est souvent. Le Seigneur nous offre, il dit, viens à moi. Il nous donne, il nous touche, on est là, on goûte les puissances du siècle. Non, pas même ma maman. Fait que nous allons tourner dans Acte 15. Et voir maintenant comment Jacques, on s'est laissé là-dessus la dernière fois, comment Jacques, par les Écritures, interprète la situation que les païens arrivent en grand nombre. Dans Acte 15, à partir du verset 1, on se rappelle que c'est des hommes qui étaient venus de Judée, donc à Antioche, et qui enseignaient aux frères que ce n'était pas suffisant d'avoir cru dans l'œuvre de Jésus-Christ, mais qu'il fallait absolument être circoncis selon le rite de Moïse et inévitablement de prendre toute la loi de Moïse pour l'observer. Paul et Barnabas ont eu avec eux une vive discussion, un débat assez intense, ce qui a fait voir à l'Église qu'il fallait régler le problème peut-être à sa source. Est-ce que l'Église de Jérusalem est au clair là-dessus? Alors, ils vont envoyer une délégation avec Paul et Barnabas pour aller rencontrer les apôtres, les anciens et l'Église de Jérusalem, qui était encore, au fond, l'Église principale. Toute l'activité tournait autour de cette Église de Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé donc à expliquer le problème. Il y a eu une grande discussion, verset 7. Et là, Pierre va se lever pour rappeler à tout le monde qu'il y a plusieurs années que c'est par lui que le Seigneur avait commencé cette fameuse brèche d'ouvrir finalement le salut, la vie éternelle, l'invitation au royaume de Dieu aux païens. Et puis, après ça, il leur dit de ne pas tenter le Seigneur en mettant un joug que ni nous, ni nos anciens, ni nos ancêtres ont pu porter. Personne n'a jamais pu accomplir cette loi. Et là, toute l'Assemblée va garder le silence. Encore une fois, on peut arriver des fois à casser les arguments des gens, mais pas nécessairement encore les convaincre. N'oubliez pas, la repentance, c'est une première étape. Je vois que ça mène à rien. Je regrette dans quoi je me suis confié. Toutes mes idolâtries sont devant moi. Donc, j'ai vraiment un regret profond. Ça, c'est la première étape. La loi me tue. La loi me condamne. La loi dit exactement ce que Dieu attendait. Et là, j'ai le choix d'accepter ma condamnation ou d'aller me cacher dans les ténèbres. Jean nous rappelle que la majorité des Juifs de son époque ont préféré les ténèbres à la lumière. La raison était simple. La loi montrait de toute façon que leurs œuvres étaient mauvaises. Ou même, à la limite, nos bonnes œuvres sont mortes. Ils ne donnent pas la vie. Mais à ceux qui l'ont reçu, il dit. Donc, si on accepte cette condamnation en disant, de toute façon, c'est vrai. C'est vrai. Je le sais que c'est vrai parce que Dieu le dit d'abord, mais même si ce n'est pas Dieu qui le dit, ma conscience, ma propre conscience, que mon éducation essaie de dompter, on essaie de dompter notre conscience pour qu'elle ne nous accuse plus. Notre société ne sait plus comment faire taire cette conscience qui angoisse tellement les gens qu'ils sont en train de péter à grandeur. Tout le monde est en train de craquer parce qu'on n'est plus capable de faire face à cette conscience qui nous accuse. Et là, après ça, on trouve des boucs émissaires.
Ah, c'est à cause des valeurs judéo-chrétiennes.
Maudit épais. Sans, je ne me sens pas en forme contre les épais aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais la stupidité, c'est vraiment fatigant. Plutôt que de dire non, reconnais que c'est vrai. Reconnais que c'est vrai ce que Dieu dit. Parce que même ta propre conscience t'accuse que tu es obligé de prendre la dope, tu es obligé de prendre de l'alcool, tu es obligé de te jeter finalement dans une société qui t'offre toutes sortes de divertissements. Tu essaies par toutes sortes de moyens de geler ce mal qui nous tue à tous les jours parce qu'elle te rappelle que tu n'atteins pas le but. Mais ça me semble évident. Puis il n'y a aucun chemin. Il n'y en a pas, peu importe ce que les sociétés ont essayé de trouver. Il n'y a jamais eu un chemin qui menait à la vie. Il n'y en a pas. Première étape, la repentance. Je reconnais que tu as raison. Le croyant, c'est celui qui dit finalement à Dieu, « Si tu me condamnes, je vais fermer ma bouche puis je vais le reconnaître. » Tu as raison, Seigneur. Tu as entièrement raison. Donne rien de me battre avec toi. Je sais qu'en me battant contre toi, je me bats contre moi en plus. Puis je me crève les yeux pour ne pas voir, puis je me bouche les oreilles parce que je ne veux pas entendre. Mais le problème, je ne suis pas capable de m'arracher le cœur qui continue à me condamner pareil. Alors, tu as raison, Seigneur. Tu as entièrement raison. Et là, finalement, la loi nous tue, elle nous amène à l'exécution. Et Pierre nous rappelle, attention les gars, remarquez que si la loi agissait chez eux, même s'il n'y avait pas les 10 commandements comme nous on les avait, ils avaient néanmoins la loi écrite dans leur cœur. Et ils ont cru le message. Ils ont cru ce que le Seigneur leur annonçait. Pierre dit, quand le Seigneur m'a demandé d'y aller, j'y étais, j'ai raconté ce qui est arrivé. Et j'ai vu la famille de Corneille. J'ai vu ce Corneille purifier son cœur par la foi. Il a purifié son cœur par la foi. Il a cru que Dieu avait tellement aimé un monde perdu que Dieu, qui nous commande à nous d'aimer nos ennemis, a été le premier à aimer ses ennemis, nous, et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Ils l'ont cru. Et parce qu'ils l'ont cru, ils ont purifié leur cœur de toute leur condamnation. Ils n'ont pas été sur un nouveau programme, comment on se délivre de telle affaire, comment on fait... Non, non, ils ont cru leur condamnation et ils ont cru que Dieu a donné son Fils qui prenne la place du croyant. Ils l'ont cru et ils ont purifié leur cœur par la foi et Dieu est redevenu favorable, tout simplement en croyant. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc, Pierre a réussi à fermer la bouche à l'Assemblée, surtout à ce parti des pharisiens qui était très intimidant. Et c'est intéressant que Pierre parle maintenant parce que, selon certains commentateurs, Paul se rappelle peut-être, si tout dépendant où vous placez la lettre aux Galates, Paul se rappelle que quand Pierre était venu à Antioche, parce que finalement, il y avait une persécution à Jérusalem. Vous vous rappelez, Jacques avait été tué, et lui, finalement, il va voir les frères, puis finalement, il s'en va, et il s'en va à Antioche. Et si c'est le même événement, il y a encore de ses frères, très intimidants, qui sont venus finalement à Antioche et qui ont intimidé Pierre. Pierre a laissé les païens de côté, il ne voulait pas être associé avec eux autres, manger avec eux autres. Quand même intéressant, pas être associé. C'est comme nous. Supposons que vous êtes au travail. OK? Vous êtes au travail. Et puis, un frère de l'Assemblée vient vous rencontrer pour l'heure du dîner. Ça marche? Tu sais, souvent, on se dit à l'Assemblée, en tout cas, écoute, il dit, hey, en passant, je vais être à ta... Ben, viens me voir, viens me faire un tour, viens vers midi... On pourrait aller dîner ensemble. OK, tu dis ça aux frères à l'église ici, tout le monde ça va bien, hein? c'est le fun. Hein? OK, et là, soudainement, le frère arrive. Et là, il vous appelle frère. Tu sais, il y a des frères qui appellent frère. Hey, salut frère. Là, les gars de la chop te regardent. Ton frère? C'est un genre de frère, ouais, c'est hey, hey, spécial, hein? Non, on gagne à le connaître, tu sais. Il a l'air de même un peu, mais non. Ouais. Hey, viens-tu, on est bénis, hein? Là, t'es là. OK, frère. On a déjà connu des moments comme ça? Où le frère, tellement libre. Bon, mais imaginez, Pierre vit quelque chose d'intimidant à ce point-là. Et c'est pas vrai parce que tu es apôtre. Puis là, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment... C'est nouveau pour moi. Vraiment, je vous dis, c'est nouveau, là. Moi, dans ma tête, là, c'était tellement établi que quand le Seigneur a laissé ses apôtres, là, les gars, là, ils toussent, c'est de même, il faut tousser. Tu comprends-tu? Tu sais, quand tu as un leader là, hors du commun, au point que les gens se peignent comme lui, ils toussent comme lui, ils marchent comme lui, tu sais, un peu pathétique, là, mais tu sais, il y en a qui... tu sais, le leader suprême. Moi, je pensais que les apôtres, c'était un peu comme ça. Puis ils se promenaient, puis ils faisaient des miroirs. Tu comprends? Puis tu sais, les gars, wow, wow, tu sais, tout le monde va être à côté de ces gars-là. Mais, à force d'étudier l'Écriture, que c'est vrai que le Seigneur se servait d'eux, mais le Seigneur, quand il sert de quelqu'un, il laisse néanmoins dans l'ombre, car tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Il va glorifier le message, il va appuyer le message, il va confirmer le message, mais il va rappeler à tout le monde, comme les apôtres l'ont fait aussi, comme Paul et Barnabas, qu'ils sont que des hommes sauvés par pure grâce, eux autres aussi. Là. Fait que les gars, c'est des gars normaux. C'est du vrai monde. C'est ça qui est... Moi, en tout cas, la parole m'impressionne de toujours me rappeler que c'était du vrai monde, parce que moi, je fuis dans ma tête dans un monde que je me fais. Tu sais, comme quand tu étais à petite école, tu te fais un monde. Tu sauves la maîtresse des bandits. Tu comprends? Puis j'avais toujours, moi, moi, j'avais pas simplement un chien dans mes rêves. J'avais un dinosaure. Un tyrannosaure qui dormait dans la cour. Puis s'il y en a un qui m'écœurait, j'étais là. Il se levait la face juste dans la fenêtre. Tu sais, c'était comme ça dans ma tête. J'avais un monde merveilleux. Alors, finalement, c'est vrai qu'en tant que chrétien, des fois, si on n'est pas assez à se laver dans les Écritures, à revenir aux Écritures, on se fait un rêve, on rêve notre vie chrétienne. On s'idéalise tout, on s'idéalise des personnages, on s'idéalise des situations, on s'idéalise la vie de l'Église, on idéalise tout parce qu'on la sort de la vraie vie dans laquelle le Seigneur est venu. Nous, on s'en va toujours au ciel. Avez-vous remarqué? On fuit sans arrêt, on s'en va ailleurs. Puis quand on est rendu ailleurs, comme Luther le disait, quand tu es rendu au ciel, tu cherches Dieu, tu demandes aux gens, « Il est où Dieu? » « Il est en bas, dans la crèche. » Pas sérieux, toi, là? Ben oui. Et puis c'est en bas. Ah bon, tu redescends. Dans la vraie vie. Alors, dans la vraie vie, Pierre, intimidé, a peut-être la chance de dire à Paul, « Cette fois-ci, je ne manquerai pas mon coup. » Parce que les mêmes intimidants sont là. Puis ils sont tellement parlants, ils sont tellement... présent, c'est des gars qui ont de l'éducation. Tu sais, quand tu n'as pas d'éducation, tu rencontres quelqu'un qui a bien de l'éducation puis qui te parle de ses diplômes. C'est un peu pathétique, des fois, là, mais il te parle de ses diplômes. Puis toi, tu aimerais ça parler de... En tout cas, la dictée que tu as réussi une fois à l'école, peut-être, tu sais, je veux dire, tu essaies de trouver quelque chose en disant, ben, tu sais, je ne suis pas si niaiseux que ça, moi non plus, là, tu sais. Bon, mais Pierre, c'est un paysan. C'est un paysan. Le gars, là, il pêche du poisson. Lui, il peut te parler des sortes de poissons, comment faire un filet, comment les, tu sais. Mais tout cet aspect des écoles, de Hillel, de Shammai, et puis toute la Shammai qu'ils ont eu justement entre les deux pour toujours, c'est-tu de Dieu, ça, c'est-tu de Dieu, écoute, c'est quoi un fardeau, le jour du sabbat, tu peux porter quoi, tu peux-tu porter des lunettes, le jour du fardeau, c'est un fardeau, hein? Tu peux pas de lunettes, pas dentier, non, tu peux pas, et puis ainsi de suite. Non, c'est pas, les gars chicanaient sur ces affaires-là, et puis eux autres, c'est des paysans, tu comprends, ils sont là, oh wow! Écoute, je suis en Israël, on est resté un an en Israël. Puis ça, c'est pas des farces, là. Les rabbins étaient en grande discussion. Vous savez, il y a la Pâques, là, c'est la semaine des sans levain. Alors là, il y avait une grande, grande discussion sur peut-on boire l'eau du robinet à moins qu'elle soit filtrée? Moi, je me demandais, y a-t-il un problème dans la tuyauterie ou tu comprends? Non, le dilemme des rabbins, c'est juste une discussion qu'il y avait à la radio, c'était sérieux, là. C'est que les pêcheurs jettent du pain dans l'eau pour attirer du poisson. Alors, l'eau qui reçoit le pain avec du levain, et que vous êtes païens, ça paraît. Mangeur de cochons, va! Mais je vous dis, c'était un point débattant, se demandant, écoute, on est-tu pur? Puis, tant que tu deviens tellement obsédé dans l'observation des règles et que tu as perdu de vue qu'est-ce que ça devait t'enseigner, tu deviens imbécile. Tu deviens littéralement imbécile. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Mon petit, le petit Ricardi, là, Nolan, il fait du vélo, là, à quatre roues, il y a 4 ans. Puis là, quand il pédale avec son petit casque et ses 4 roues, il regarde ses pédales. Fait que moi, je dis, il ne faut pas que tu regardes tes pédales. Non, non, je le sais. Il sait tout. Hein, tu sais, c'est ça. Je le sais. Mais non, regarde, parce que là, tu peux rentrer dans un arbre, tu peux rentrer. Non, je le sais. Mon père me l'a dit. Je le sais. Mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il regarde les pédales. Tu regardes les pédales encore? Non! Ça va? Pareil comme nous autres. Le Seigneur nous a donné un signe qui pointe. Nous, on regarde. Waouh! Ça va? Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà dit quand quelqu'un pointe la lune, les imbéciles le regardent la main ou je ne sais pas, regardent le doigt. Ça fait que là, Pierre a la chance de dire, OK, peut-être je me souhaite une fois, je me souhaite avoir une fois. C'est vrai qu'ils sont intimidants parce qu'ils ont le don de te rendre ça mêlant. Puis là, il va dire, non, on est purifié par la foi. Il ne sait pas trop non plus comment gérer le problème encore, mais il sait au moins non. Je suis d'accord avec Paul, c'est non. On n'a pas à les circoncire parce que ces gars-là ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Et ils n'étaient pas circoncis. Je ne pense pas que Dieu, finalement, n'avait pas vu qu'ils n'étaient pas circoncis. Tu sais? Ça fait qu'il dit, Dieu qui voit au cœur, Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, leur a rendu, Dieu a montré qu'il était pour eux, en Jésus-Christ. Il a rendu témoignage à ses païens devant les Juifs en disant, écoutez, vous là, il faut vous compreniez une chose. C'est vous qui êtes le reste d'Israël que j'ai sauvé. Et comme Pierre, tu le dis, dans d'autres messages, si vous regardez dans les Actes, c'est quoi le message? Parce que c'est des messages, mais c'est le message des Actes. Prenez toutes les prédications, là, Pierre, Étienne, Paul, ainsi de suite, là, et mettez-les, essayez de voir le message qui est là-dedans. C'est un message. Qu'est-ce qui arrive avec l'ethnie d'Israël? Moïse a dit, ça faisait partie de leur message, « Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Si quelqu'un du peuple ne l'écoute pas, il doit être retranché du peuple. » Oui, mais si c'est à peu près 95 % du peuple qui le rejette, eh bien que 95 % de ceux qui se croyaient du peuple soient retranchés du peuple et que le reste du peuple, qui est l'Israël de Dieu, se lève. Donc, pour eux autres, c'est l'Israël de Dieu. Mais en même temps, Dieu avait dit que par Israël, il était pour finalement amener son salut dans toutes les nations. Et c'est ce que Jean va se lever en disant après, écoutez, on a compris ici ce que Pierre vient de dire, même il l'a appelé par son prénom familier, comme on avait vu, Siméon. Il dit, comme Siméon a raconté, même si dans vos vies, c'est marqué Simon, c'est vraiment Siméon. Comment Dieu a d'abord jeté sur les nations. Sur les nations, pour les Juifs, c'est les autres. Il y a le peuple et les nations. Dieu a jeté son regard sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et il rappelle dans sa lettre, entre autres Pierre, comme on l'a vu la semaine passée, dans 1 Pierre 2:10, vous qui n'étiez pas auparavant un peuple, vous êtes devenu un peuple, son peuple, le peuple. Mais les Juifs comprennent pas, ils disent, mais OK, s'ils sont donnés maintenant à nous, l'Israël de Dieu, mais il faut qu'ils observent ce que Moïse nous a donné. Là, Jacques va dire, non, je pense que les gars, on a mal compris. Et il va citer donc Amos. Et quand il cite la prophétie d'Amos dans Amos, on va tourner là, on va regarder ensemble comment cette prophétie est rappelée, OK? Amos au chapitre 9. Et quand on parle des prophètes, c'est souvent les fameux 12 petits prophètes, là, tu sais. OK, donc, Amos, chapitre 9. Si vous avez une très sainte Bible, c'est à la page 1283. Pour les autres, bien, trouvez-le. Dans le contexte, il est dit, au verset 9, entre autres, si on met un peu dans le contexte, même un peu avant, mais peu importe. Là, « Voici, je donnerai mes ordres, je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations. » Pourquoi? Parce qu'avant, il va détruire la maison d'Israël. Il va disperser partout Israël. Ce qui est dit au verset, entre autres, 7 et 8. Et là, il dit, Et tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le malheur ne nous approchera pas, ne nous atteindra pas. Verset 11, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, et j'en rebâtirai les brèches, et j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom. Et ici, il y a un jeu de mots dans l'hébreu, parce que c'est les mêmes lettres que pour homme, Adam. Okay? Donc, c'est pour ça que Jean parle des hommes, et ici, c'est Édom. Il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Est-ce que vous vous rappelez quand Jésus dit une phrase assez intéressante dans les Évangiles, je pense que c'est Matthieu qui le rappelle, Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Celui qui rebâtit finalement cette tente, c'est le Seigneur. Et il a rebâti sur lui. Ceux qui font partie du peuple sauvé, c'est ceux qui ont dû passer par une nouvelle naissance, juifs ou païens. Ceux qui ne font plus partie de ce peuple et qui sont destinés à la mort, à moins qu'ils se repentent et croient, juifs ou païens. Et qu'est-ce qu'on est devenu? Paul le rappelle aux Galates, qui étaient très impressionnés par, encore une fois, les judaïsants, qui leur dit « c'est pas suffisant de croire, il faut vous faire circoncire, il faut observer la loi, il faut devenir des vrais juifs comme nous autres, s'intégrer à nous. » Paul leur dit « Non, vous êtes devenus par la foi des fils d'Abraham. La promesse était pour vous. » Et le message des Actes, par Pierre, par Étienne, par Paul, par tous ceux qui ont parlé, c'est toujours « c'est accompli ». Les promesses que Dieu a faites, il les a réalisées. Comment? Bien, il cite entre autres le psaume 2. Je t'ai engendré, t'es mon fils. La nouvelle création est commencée. Quand? À la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que les croyants, les apôtres, dès le début, se sont distingués d'Israël physique qui avait rejeté ce Messie. Et s'ils le rejettent, ce n'est pas le Messie. Il faut vraiment comprendre une chose ici. Nous, on pense vraiment de manière démocratique. On pense que parce que la majorité ont rejeté, le Seigneur est parti pour revenir plus tard. Puis là, pendant ce temps-là, il fait un genre d'autre œuvre en attendant. Tu sais. Plutôt que de dire, non, non, les gars, c'est pas qu'ils ont rejeté le Seigneur, c'est s'ils n'ont pas accepté celui que Dieu a sacré comme Seigneur et Roi, unique Sauveur. Et un jour, toute bouche va confesser, tout genou va fléchir devant celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est ceux qui l'ont rejeté qui sont rejetés du peuple. Ils ont beau garder l'ethnie, ils ont beau garder finalement, selon la chair, toutes les choses. Mais comme Paul va le rappeler, il dit, Abraham a eu un fils par la promesse. Il y a eu un premier fils qui a essayé d'aider Dieu. Hein? Vous vous rappelez, il a essayé d'aider Dieu. Sa femme était stérile. Sarah, sa femme, est stérile. Fait que Dieu dit, voici ce que je vais faire, voici. Il donne une grande promesse, mais ça dépend que le gars ait un enfant. Mais ça commence mal, sa femme est stérile, il ne peut pas en avoir, il essaye, jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être sa femme, parce qu'elle sent mal de faire échouer peut-être l'appel de son mari, dit, légalement, tu peux coucher avec ma servante. Ça se fait, c'est légal. Fait qu'écoute, légalement, tu vas coucher avec ma servante, on va avoir ce fils, et là, on passe au chapitre 2, let's go, la promesse commence. Et comme de fait, ils ont eu Ishmaël par Agar. Dieu, après ça, revisite Abraham. Ça prend un petit peu de temps, là, en passant. C'est pas... Tu sais, ça se fait... Dieu... Avez-vous remarqué, Dieu n'est pas pressé? Comment nous autres, ça nous fatigue qu'il ne soit pas pressé? Je veux dire, il a l'air... Lui, il a du temps. Il s'appelle l'Éternel. Nous autres, on s'appelle quoi? Très temporaire. Vapeur. Ça fait que là, tu sais... Nous autres, on lit ça vite, là, tu sais. Bon, Abraham, là, Agar, ça, OK, non, ça, OK, ouais, non, ça, Abraham, là, OK, rendu là, ouais, ah oui, là, là... Quand tu calcules le temps entre les deux, là, t'as des années. Tu sais qu'il faisait pendant ce temps-là? Rien. Prenait soin de ses brebis, les chameaux, les serviteurs, tu sais, les ciments, la vie de tous les jours, sort les poubelles, lave la vaisselle. Tu veux dire la vraie vie, tu comprends? Peut-être que c'est le serviteur qui le faisait, je sais pas, là. Mais un jour, deux, il dit, ah! Abraham, tu auras une postérité. Ah, c'est, tiens, on va leur dire c'est réglé. Non, il dit non, avec ta femme. Le gars s'est marié poliment. Mais tu sais, c'est quand tu n'es plus capable de te faire accroire que tu crois quelque chose. Hein? C'est là les meilleurs moments de notre vie chrétienne. Tu sais, là, quand tu n'es même plus dans le « que ça coule de croire », quand tu le sens, tu crois, ou je ne sais pas moi, tout le monde le croit. Et, mais dis, quand tu es rendu tout seul dans ta gang de le croire, puis même toi, tu es tout seul de tout seul. Même toi, tu te regardes en disant « tu crois encore à ça? » Ben j'essaye. Puis Abraham, là, il est comme « OK, là, j'en peux plus, là. » Il rit. Il est couché, tu sais, humblement. C'est entre rire et pleurer. Tu sais, là, quand tu as le genre de shake, là, oh, je suis donc tanné. Puis il dit, tu ris? Pas du tout. Parfait, on va appeler ça comique. Comment? Ouais, ouais, on va appeler ça on joue. C'est comique. C'est ça que ça dit, Tsark. On joue. C'est comique. Fais-tu me dire, ta mère t'appelle, OK. Eh hey, bien, mon petit comique, c'est temps de manger. Ah ouais. C'est comique. Parce qu'oubliez pas, Isaac, un jour, Isaacait avec sa femme. Et Abimelech a vu qu'on n'isaque pas de même avec sa sœur. Il dit, attends, attends, on n'isaque pas comme ça avec sa sœur. Puis c'est dans la Bible, Isaac jouait, plaisantait avec Rebecca. Pas beau la Bible, bien un peu? Sortez des fois de votre esprit religieux, constipé, chronique, bizarre. Bien. Vivez! C'est la vraie vie, c'est la vraie, vraie vie. C'est du vrai monde qui, comme nous autres, des fois, ça va bien, ils ont du courage, puis d'autres fois, quand le vrai arrive, « Ah, ben OK, je pense qu'on va passer notre tour. » Ils sont pareils comme nous autres, c'est ça qui est encourageant. Mais Dieu est le même dans la Bible que dans notre vie aussi. C'est le même Dieu, là. C'est le Dieu qui est fidèle, c'est le Dieu qui est capable, c'est le Dieu qui promet, c'est le Dieu qui accomplit, c'est le Dieu qui dit, et il va accomplir ce qu'il dit. Alors, tout ça pour dire que dans Acte 15, Jacques donne une interprétation que certains aujourd'hui se disent, mais il a dû se tromper. Moi, je serais prudent avant de dire que Jacques s'est trompé. Je ne pense pas que Jacques avait une mauvaise herméneutique. Je pense que Jacques a vraiment compris. Puis il a dit, écoutez les gars, Dieu fait une œuvre. Il y a ce peuple qui est en train de faire. Donc, je suis d'avis. Et ça prend un gars comme Paul pour élaborer la compréhension doctrinale. Parce que même l'Église de Jérusalem n'est pas trop sûre de savoir comment faire. Il dépend du ministère de Paul. Et encore une autre chose qui est vraiment bénie. Avez-vous remarqué que Paul, quand il s'est levé, les gens n'ont pas dit « Oh, c'est l'apôtre Paul qui parle. On va, c'est réglé. » Imagine que l'apôtre Paul vient ici, là, puis il dit quelque chose. Est-ce que vous allez dire « Non, je ne suis pas sûr. » L'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Quand on lit l'apôtre Paul, moi, dans ma tête, il me semble que Paul se lève à Jérusalem et dit « Hey, les gars, tu sais, c'est ça qui est ça. » Puis moi, j'aurais pensé que toute l'Église avait dit « Ben oui, c'est ça. » Même Paul n'est pas encore si reconnu que ça. Paul n'est pas si reconnu que ça. C'est du vrai monde. Il y a un vrai parcours. Il y a une vraie vie. Il y a une vraie croissance. Il y a un vrai développement. Il y a des vraies expériences qu'on fait avec le Seigneur. Il a vraiment rétabli une relation avec eux. Il les instruit vraiment pour vrai. Et il fait la même chose avec nous. Il fait la même chose avec nous. Perdons pas des occasions, lorsque des défis arrivent, de se retirer puis de se cacher dans les ténèbres. On perd un temps fou qu'on ne trouvera plus jamais. Ce qui nous reste, là, on va l'investir dans le royaume de Dieu. En terminant, si on vous annonçait qu'il vous reste 3 semaines à vivre, supposons, il vous reste 3 semaines à vivre, OK? Supposons qu'on vous annonce qu'il reste 3 semaines à vivre. Est-ce que vous feriez des changements? Répondez pas. Faites juste y penser. Est-ce que vous feriez des changements s'il vous reste juste 3 semaines à vivre? Si certains disent, hey, c'est sûr, je fais un gros changement. D'abord, demandez-vous pourquoi vous feriez ce changement. Parce que ça se peut en passant que dans 3 semaines, ne soyez plus là. Puis deuxièmement, si certains disent, je pense que je mettrais ma vie en règle si je pars dans 3 semaines, vous conseillerez de le faire tout de suite. Parce que l'impression d'être ici pour toujours est une idolâtrie, une illusion chronique à laquelle on ne veut pas décrocher. On ne veut pas décrocher. S'il nous reste 3 semaines à vivre, normalement, on devrait dire, ben écoute, on va continuer comme je fais. C'est tout, on va continuer comme je fais, là. Ça va être un peu surprenant parce que je savais que j'étais pour mourir, mais je pensais que c'était dans 1500 ans à peu près. Mais bon, OK, déjà. Écoute, il y en a qui ont 110 ans. Déjà, je vais mourir, moi, là? Eh oui. Donc, tous ces gens-là maintenant sont en présence de Dieu. Tous ces gens-là ont dû vivre un défi. Plutôt que de faire deux églises, ils sont restés unis et ils ont fait finalement une entente pacifique pour s'attendre. Et c'est ce que Paul développe, entre autres, dans la liberté que tu as maintenant, dans la compréhension de la grâce de Dieu. Fais attention de ne pas l'utiliser pour que ce soit une pierre d'achoppement chez celui qui est scrupuleux parce qu'il est faible encore dans sa foi. Fais attention. Et Pierre va nous dire aussi différemment, faites attention que cette grande liberté que Dieu nous donne ne soit pas un voile pour cacher votre méchanceté, parce qu'au nom de la liberté, aussi, on peut devenir méchant. Mais il dit, profitez-en plutôt pour servir le Seigneur. Trouvez sa volonté. Marchons dans ce qu'il prépare, car ce que Dieu demande, il le donne. On est la preuve vivante. On a vécu des choses absolument incroyables. Pas vrai? On a vécu des choses incroyables. Voilà, t'aurais-tu imaginé que tu aurais été un missionnaire en Haïti, puis parti de même? Je me rappelle quand il venait la première fois de Plessisville, il me disait, Dieu ne peut rien faire avec moi, je suis un cultivateur, je suis esclave de ma ferme. C'est vrai qu'une ferme, ça demande, pas vrai? Tu ne peux pas emmener tes vaches en vacances avec toi pour dire, vous voyez le train pendant ce temps-là. Tu vois? Fait que c'était toujours un fardeau. Et pourtant, Dieu a réorganisé sa vie, qu'il n'aurait jamais rêvé dans 100 ans. On a fait des choses absolument inouïes. Si quelqu'un avait raconté ce que Dieu était pour faire dans sa vie, il aurait ri de lui, c'est sûr. Dieu peut faire des choses dans nos vies absolument incroyables. Vivons pour lui. Ça vaut la peine. Amen. Seigneur, on veut se mettre devant toi pour que tu puisses continuer ce travail de nous éclairer. Oui, la tension est forte dans un monde, on est né dans un monde de toute façon qui a travaillé par l'éducation, par la propagande, par toutes sortes d'intentions de nous canaliser comme population pour, au fond, atteindre sûrement des buts obscurs qu'on ne sait pas de trop qui, mais on sait d'où ça remonte jusque dans le monde des ténèbres. Par contre, tu n'es pas le Dieu détaché de l'histoire. Tu es le Dieu aussi qui gère l'histoire. Car le mal, même s'il est encore présent, même si tu as vaincu le malin, le mal, Seigneur Dieu, agit. Mais même ce mal, comme Joseph le rappelle à ses frères, Dieu peut le tourner à sa gloire. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi et à ne pas aller se réfugier dans les ténèbres. C'est une tentation tellement facile. C'est tellement facile pour nous de vouloir juste abandonner et se geler la tête avec les plaisirs que le monde se donne. Surtout si on est dans un pays qui en a les moyens. Et on est dans un pays qui nous donne les moyens de fuir et de pelleter par en avant longtemps. Mais un jour, on va venir... Ou comme l'Ecclésiaste nous dit, par contre, il faut que tu saches que tu vas rendre compte pour toutes ces choses. Seigneur, fais qu'on ne soit pas des gens qui ont gaspillé ta grâce, qui ont reçu en vain cette bonté à notre égard. Qu'on puisse continuer, puis vraiment, encore une fois, c'est une bénédiction, c'est même un privilège, un honneur d'avoir participé à cette vie d'Église ici. Parce que Seigneur Dieu, avec rien, tu as fait des choses absolument incroyables. Avec rien. Avec aucun lieu où reposer notre tête, avec pas une scène. On n'avait rien, absolument rien. On n'avait même pas de connaissance, mais on avait toi, par contre, Seigneur. Toi, tu nous avais saisis et toi, tu avais promis de faire quelque chose. Et Seigneur Dieu, si quelqu'un nous avait raconté au point de départ ce que tu étais pour faire, ce qu'on vit tellement naturellement que même souvent, on n'est plus reconnaissant, on pense que c'est normal, on aurait ri, on aurait pensé que c'était impossible. Seigneur Dieu, tu dis que si par contre on continue à faire de toi nos délices, tu vas produire des désirs dans notre cœur que tu vas combler, des désirs de faire ta volonté, de marcher dans ce que tu as préparé, et bientôt, très bientôt, on va se réjouir avec toi, Seigneur Dieu, dans ce plan inouï que même la plus forte des imaginations n'arrivera pas à capter. Nouvelle terre, nouveaux cieux, résurrection de nos corps, une vie glorifiée avec toi pour toujours. Et celui qui nous a fait ses promesses ne peut pas nous mentir. Alors, Seigneur Dieu, confirme, fortifie, enracine cette espérance qui fait qu'on est capable d'abandonner ce qui nous trompe si facilement après. Se tournant vers le Dieu vivant, on abandonne facilement nos idoles muets qui ne servent à rien. Merci, Père, énormément dans le précieux nom de Jésus. Et continue à bénir cette Église, chaque membre ici. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen.